RCF. RCF, il est 19h.
Le journal, Laurette Duranel.
Bonsoir à tous et à toutes. À la une ce soir, Volodymyr Zelensky en visite surprise à Paris. Le président ukrainien va rencontrer ce soir Emmanuel Macron. On revient sur les enjeux de cette rencontre dans ce journal. En Turquie et en Syrie, le contexte géopolitique complique les opérations de secours. Plus de deux jours après le séisme, le temps est compté. Et puis à l'Assemblée nationale, les débats sur le régime des retraites se poursuivent. Les syndicats ont annoncé aujourd'hui une cinquième journée de mobilisation, jeudi 16 février. Volodymyr Zelensky est donc attendu à Paris ce soir. Le président poursuit ses visites surprises en Europe après son passage au Royaume-Uni cet après-midi où il a rencontré Rishi Sunak et le roi Charles III. Il va donc dîner à l'Élysée avec Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz ce soir. L'occasion de mettre à plat certains malentendus entre la France et l'Ukraine, d'après Patrick Martin-Genier, spécialiste de l'Europe.
C'était important pour le président ukrainien qu'il y ait cette visite à Paris parce qu'il y avait de graves malentendus entre la France et l'Ukraine. Il avait été reproché à Emmanuel Macron d'avoir dit au début de la guerre qu'il ne fallait pas humilier la Russie, Vladimir Poutine. Ensuite, il a exprimé le fait que pour la livraison de certaines armes, il ne fallait pas que ce soit escalatoire. Donc, il fallait dissiper ce malentendu d'une part, mais d'autre part, la France a été présente quand même pour envoyer des armes en Ukraine. Donc, il y a aussi cette nécessité de remerciement de la France et de montrer qu'il y a des liens aussi avec la France, même si les liens ne sont pas aussi chaleureux qu'avec le Royaume-Uni notamment. Donc, de quoi va-t-il être question? Bien savoir naturellement jusqu'où la France peut aider l'Ukraine, voir si éventuellement elle serait prête à envoyer des Mirage 2000, des avions. Et en tout cas, la question sera sur la table, mais je ne pense pas que la réponse viendra ce soir.
Et Volodymyr Zelensky est attendu également demain à Bruxelles pour le Conseil européen extraordinaire. Il sera question de l'envoi d'armes et d'avions, mais aussi de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les images qui nous parviennent sont terribles. Scènes de désolation en Turquie et en Syrie après le puissant séisme qui a fait trembler la terre dans la nuit de dimanche à lundi. Cette nuit encore, les secours s'affairaient pour dégager des décombres les éventuels survivants, malgré un froid persistant qui complique les opérations. Le bilan provisoire fait état de 11 700 victimes. Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, souligne le difficile rôle de l'État syrien et la menace grandissante de Daesh au micro de Pierre-Hugues Dubois.
D'abord, il faut de fait assurer la sécurité pour éviter qu'il y ait des pillages qu'il y a parfois dans ce type de situation. Ensuite, il faut qu'ils permettent la libre circulation de l'aide. Et puis, on va devoir implanter, dans un premier temps, des villages de tentes. Et après ça, autant que possible, des bungalows, comme nous l'avons déjà fait au moment où les chrétiens ont été chassés par Daesh en Syrie, en Irak. L'État islamique se reconstitue aussi bien en Irak qu'en Syrie. C'est extrêmement préoccupant et il faut absolument éviter cela. Et le développement de l'État islamique, c'est de fait la misère des gens, et parfois donc la colère de ceux qui n'ont plus rien, et aussi d'ailleurs le manque d'éducation. Et nous agissons dans l'éducation et pour essayer de redonner un espoir aux populations. C'est une lutte contre le désespoir que nous devons d'abord mener.
L'ONU a appelé le gouvernement syrien à mettre la politique de côté pour faciliter l'accès des organisations humanitaires. Et en Turquie, les critiques montent contre Erdogan, le président turc, qui a reconnu des lacunes dans la réaction du gouvernement après le séisme. Il est possible, je cite, d'être préparé à un désastre pareil, a-t-il dit. Les deux pays pourront en tout cas compter sur l'aide de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'annoncer la tenue d'une conférence des donateurs début mars à Bruxelles. À l'Assemblée, la bataille continue. Les députés débattent en ce moment de la suppression des régimes spéciaux voulus par les gouvernements successifs par principe d'équité entre les salariés. Sandrine Rousseau, députée NUP de Paris, a dénoncé une réforme idéologique et qui survient au mauvais moment.
La RATP manque de chauffeurs. on n'arrive pas à prendre les métros. Elle est au bord de la rupture. Aujourd'hui, nous en avons besoin plus encore qu'hier. Et c'est aujourd'hui que vous cassez les droits sociaux pour empêcher l'attractivité de ces métiers. Honte sur vous encore une fois.
Les régimes spéciaux des marins, de l'Opéra de Paris et de la Comédie-Française sont en revanche maintenus. Et les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle aura lieu jeudi 16 février en pleine vacances scolaires pour les zones A et B et à la veille de la fin de l'examen du texte à l'examen. Après Exxon et Shell, Total Energy a publié aujourd'hui les résultats de ses bénéfices pour l'année 2022. Et c'est un record historique pour la marque avec 19,5 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Une hausse de 28% par rapport à 2021, soit le plus haut chiffre jamais réalisé par la major française. Des résultats que dénoncent certaines ONG environnementales comme Alternativa ou le mouvement Laudato Si. Elles critiquent notamment ses bénéfices records alors que l'Europe connaît une crise énergétique sans précédent, mais aussi la poursuite de certains projets d'extraction d'énergie fossile à l'heure de la crise climatique. Clem Conversé-Doré est porte-parole d'Alternativa Paris.
Déjà, Total a complètement profité de la crise énergétique pour s'enrichir. Enfin, les Français et les Françaises ont connu pas mal d'incertitudes et pas mal de galères à cause de cette crise. Et Total s'est enrichi sur la crise. Il y a ça, il y a le fait que Total ne paye pas d'impôts en France grâce à des petits arrangements avec les gouvernements depuis les années 70. À l'heure où on parle du financement du système de retraite, le fait qu'on ne cherche pas spécialement à taxer les super profits d'une entreprise comme celle de Total, dont l'activité a des conséquences désastreuses, ça nous semble complètement aberrant. Il y a aussi le fait qu'évidemment, on parle d'une transition énergétique qui est nécessaire. Tous les scientifiques sont unanimes sur le sujet. Et Total continue à financer, non seulement financer des projets d'énergie fossile, mais à en lancer de nouveaux, comme le projet ICOP en Ouganda.
Ce matin, des actions coup de poing ont eu lieu au siège de Total à Paris. Des manifestants ont recouvert l'enseigne de peinture rouge pour illustrer les dégâts écologiques et humains qu'engendre le géant pétrogazier. Plus de 500 tracteurs se sont dirigés aujourd'hui vers le cœur de Paris. 2000 agriculteurs ont défilé à l'appel du syndicat agricole FNSEA, la plupart issus de la culture de la betterave, car c'est l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, très répandus dans leur culture, mais accusés de tuer les abeilles, qui a été l'élément déclencheur de la manifestation. Mais c'est un ras-le-bol des législations les plus contraignantes qui les a mobilisées. Notre reporter Célia Goetti s'est faufilée entre les tracteurs à leur rencontre.
Il s'étire en descendant. Grégoire a roulé presque 7 heures pour rejoindre les Invalides en tracteur. Agriculteur de Seine-et-Marne, il manifeste contre la fin de la dérogation d'utilisation des néonicotinoïdes.
En 2020, on nous avait interdit cet insecticide. Ça a été une année catastrophique pour nous, agriculteurs.
Vous l'avez ressenti, vous ?
Ah ben, complètement. Les rendements ont été divisés par 3 ou par 4. Donc après, vous ne faites plus de marge et vous mangez de l'argent avec la betterave.
Benjamin Bertolo fait partie de ceux qui cultivent les 30 000 hectares franciliens de betterave à sucre. Pour lui, la fin de la dérogation est trop brusque.
On avait des homologations qui allaient durer 3 ans. La recherche avançait. Et là, du jour à l'autre, on nous interdit un produit. Il faut laisser le temps à la recherche.
Les 2000 manifestants ne sont pas juste betteraviers. John fait pousser du blé et de l'orge. Avec quelques collègues, il tague le slogan du jour sur une bâche.
Pas d'interdiction sans solution.
Parce que c'est le futur du métier qui est en jeu pour eux. Les jeunes agriculteurs sont nombreux dans le cortège, comme Alix Hurto.
Depuis que je suis installé, il n'y a pas une année où on n'est pas tranquille avec des interdictions. Et du coup, je me dis qu'une carrière de 40 ans, je ne sais pas, à la fin de ma carrière, ce que sera l'agriculture française, quoi.
Une fois les camions garés, place à la bière locale et au discours, en présence de nombreux élus, un espoir pour les agriculteurs que le débat réouvre à quelques rues de là, sur les bancs de l'Assemblée.
Merci Célia. Un homme fiché S, soupçonné d'avoir menacé de mort plusieurs prêtres, a été interpellé dans le 6e arrondissement de Paris cet après-midi, non loin de l'église Saint-Sulpice. Ce sont les prêtres qui ont donné l'alerte fin janvier. L'homme a été placé en garde à vue. La Cour des comptes alerte le gouvernement sur la gestion des barrages hydroélectriques en France. Dans un document dévoilé lundi, mais transmis dès le 2 décembre à la Première ministre, les magistrats appellent à mieux gérer le parc hydroélectrique français, le plus grand d'Europe, pour éviter qu'il ne se dégrade et qu'il ne puisse jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique. Les précisions d'Étienne Pepin.
Sur les 340 concessions hydroélectriques en France métropolitaine, dont les échéances s'étalent entre 2003 et 2080, 38 sont déjà échues et pas renouvelées. Elles seront 61 fin 2025. La poursuite de l'exploitation est autorisée par la loi sous le régime dit des délais glissants, mais cette solution provisoire présente de nombreux inconvénients. Le financement et la programmation des investissements nécessaires au bon fonctionnement ou à l'amélioration de ces ouvrages sont perturbés et incertains, déplore la Cour des comptes. La Cour des comptes qui estime aussi que le cadre économique qui permet d'opérer actuellement les 6 stations de transfert d'énergie par pompage n'est pas assez incitatif pour atteindre les objectifs de transition énergétique que s'est donné la France. Les magistrats conseillent de les considérer comme des équipements destinés à contribuer à la flexibilité du réseau pour leur octroyer un statut concurrentiel. La Cour des comptes n'est pas opposée à la solution d'une quasi-régie qui est désormais privilégiée par l'État dans un contexte d'une renationalisation à venir d'EDF.
Merci Étienne. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle à la page sport. L'équipe de France de relais mixte a remporté la médaille de bronze cet après-midi aux Mondiaux de biathlon qui se déroulait à Oberhof en Allemagne. Ce podium fait oublier la performance décevante de Tessa Worley aux Mondiaux de ski qui se déroule en ce moment à Courchevel. La Française a terminé seulement 9e du Super G. Demain, ce sera place au Super G homme sur Eurosport et France 2. Toutes les chaînes le diffusent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Christophe Morag à la technique et merci à vous pour votre écoute. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur RCF et à demain.